Donc, c'est vraiment, comme je le disais, un plaisir de se retrouver avec vous pour démarrer une nouvelle session sur l'évangile de Luc. On va voir ensemble, Luc chapitre 1. Je rappelle que Luc est le livre le plus long du Nouveau Testament. Et je ne traiterai avec vous que les versets 1 à 25. En ce qui concerne les versets 26 à 55, je vous renvoie vers la prédication de Pierre Solotki qui date d'octobre 2019. Qu'il avait faite dans le cadre de la série sur la prière. D'accord, c'est la prière de Marie. Donc moi, je vais me concentrer sur les versets 1 à 25. Et avant de commencer, je vous propose de jeter un petit coup d'œil au contexte. D'accord, un rapide survol un peu de qui est Luc et de ce qu'il a vécu. Luc, c'est celui qu'on appelle le médecin bien-aimé. C'est Paul qui l'appelle comme ça en Colossiens chapitre 4, verset 14. Donc c'est le médecin bien-aimé. C'est l'un des compagnons de Paul. Il a sûrement soigné Paul pendant l'emprisonnement de celui-ci, mais il est aussi un collaborateur de Paul. C'est Philémon chapitre 1, verset 24 qui nous le dit. Alors je dis Philémon chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre à Philémon. On pourrait dire Philémon 24, ce ne serait pas gênant. Et donc, c'est un collaborateur de Paul. D'accord? Ce n'est pas juste son médecin, c'est quelqu'un qui a été avec lui, qui l'a accompagné, qui a travaillé avec lui. Il a accompagné Paul quand les autres l'avaient abandonné, ça on le voit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 11. C'est un homme qui est fidèle. C'est un homme qui est zélé pour l'évangélisation. Et d'ailleurs, on remarquera un fait très intéressant, c'est que tout au long de l'évangile de Luc, il est de nombreuses fois fait mention des personnes, en fait, dont la société ne faisait pas grand cas. Il se trouve que c'est malheureux, mais la société n'accordait pas une grande importance aux femmes. Et dans l'évangile de Luc, il y a 13 femmes qui sont nommées et qui sont absentes des autres évangiles. Il se trouve que Luc va particulièrement mettre l'accent aussi sur les Samaritains, sur les pauvres, sur les malades, sur les rebuts de la société. En tout cas, plus que les autres évangiles. On voit que Luc avait un amour profond pour son prochain. Il avait un cœur d'évangéliste. Selon la tradition, il serait d'origine païenne et il aurait vécu jusqu'à 84 ans en restant toujours célibataire. De nombreux spécialistes ont reconnu dans le travail d'écriture de Luc pour l'évangile de Luc et pour Actes des Apôtres, qui finalement forment un ensemble, ils ont trouvé un sérieux travail d'historien. C'est vrai que quand on regarde l'évangile de Luc, on voit une foule de détails, plein de petites choses, et on se dit, il a dû chercher sérieusement les faits qu'il voulait relater le plus précisément possible. Et il faut aussi qu'on se rappelle qu'au-delà du travail d'historien, les évangiles sont là pour nous présenter et nous parler de Jésus-Christ. C'est vraiment important que l'on comprenne ça. On le verra, Luc s'adresse à des personnes, semble-t-il, qui croient en Jésus, puisqu'il parle à cet honorable Théophile, d'accord? Afin de leur présenter la signification et la fiabilité des croyances qu'ils ont reçues. Mais ce livre a pour but aussi de présenter l'œuvre de Jésus-Christ et la vie de Jésus-Christ à tous ceux qui ne le connaissent pas. On remarque qu'il y a une qualité littéraire particulière pour l'évangile de Luc. C'est une qualité littéraire qui est en accord avec le style des œuvres littéraires de son époque. En fait, on voit là aussi que Luc était quelqu'un d'éduqué, qui avait de la connaissance. Et en fait, ça suggère aussi que cet évangile était fait pour être lu par un vaste auditoire, pour s'adresser à de nombreuses personnes. Parce que si c'est un style qui est en accord avec ce qui se faisait à l'époque pour être donné à tout le monde, on voit que Luc a là l'intention de pouvoir présenter cet évangile à un vaste auditoire. Et on voit que Luc présente, dès le début, son évangile comme ayant pour but de prêcher la bonne nouvelle, de présenter l'œuvre du salut en Jésus-Christ, et que ça soit fait en accord avec les prophéties de l'Ancien Testament. La notion des promesses faites par les prophéties de l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces prophéties, c'est quelque chose qui est très présent dans cet évangile. D'ailleurs, on verra un des accomplissements des promesses de l'Ancien Testament ensemble. L'Évangile a, semble-t-il, été écrit dans le début des années 60, après Jésus-Christ. Alors, il y a plusieurs versions, plusieurs personnes qui ne s'accordent pas tous parfaitement. Certains le dateraient un peu plus tard, mais il y a quand même un bon consensus par rapport au début des années 60. Et on sait, d'après Actes, chapitre 21, que Luc était avec Paul aux alentours de l'année 58, lorsque Paul s'est rendu à Jérusalem après son troisième voyage missionnaire. Puis, Paul a été arrêté à Jérusalem, il a été gardé en prison à Césarée pendant 2 ans, Et après, il a été emmené à Rome. Depuis Césarée, il a été emmené à Rome. Et Luc était encore avec lui à ce moment-là. C'est acte 27 qui nous le dit. Donc, Luc a pu passer environ 2 ans dans la région de Césarée et la région de Jérusalem, puisque ce sont deux villes qui sont très proches. En fait, il a passé beaucoup de temps dans cette région-là. Et pendant 2 ans, Luc a eu tout le loisir d'aller chercher des témoins fidèles, des témoins oculaires, des personnes qui avaient assisté à ce qu'avait vécu Jésus, à la vie de Jésus, des personnes donc qui sont des témoins de première main, de première qualité. Et c'est pour ça qu'en fait l'évangile de Luc a cela de particulier, c'est qu'il a fait ce travail d'enquête et de recherche pour pouvoir nous livrer un texte qui soit fidèle à ce qui s'est réellement passé. Pardon. Je vous propose maintenant de commencer la lecture du texte, puisqu'on a vu ensemble un peu le contexte. Luc chapitre 1, versets 1 à 25. Je l'ai mis ici dans la version Summer, je vous encourage à le prendre dans vos Bibles. Luc chapitre 1, versets 1 à 25. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. Il y avait, à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils. » Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'Esprit et la puissance qui résidaient en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange, « À quoi le reconnaîtrai-je, car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. » Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu'il avait une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Et pendant 5 mois, elle se tint cachée. Elle se disait, c'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. Voilà donc la parole de Dieu. Et nous allons voir donc dans ce texte 3 choses, 3 parties. Premièrement, l'annonce d'une intention. Luc nous annonce ce qu'il a l'intention de faire avec son évangile. Pourquoi est-ce qu'il l'a écrit? Ensuite, on voit l'annonce d'une naissance, la naissance de Jean. Et enfin, l'annonce du ministère de Jean, qu'on appellera Jean, Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. C'est la même personne. Premièrement donc, l'annonce d'une intention, les versets 1 à 4. Dès le début, Luc souhaite apporter sa pierre à l'édifice de la constitution d'un témoignage fidèle de la vie de Jésus. Et il fait ça de façon très soigneuse, très consciencieuse. Comme nous l'avons déjà dit, Luc a pris le temps de s'informer auprès de témoins de première qualité de la vie de Jésus. Et cela lui a permis de relater des faits que personne d'autre ne mentionne. Il faut savoir qu'environ 50% de l'évangile de Luc est unique dans le matériel qu'il contient. On retrouve 50% de l'évangile de Luc nulle part ailleurs dans les autres évangiles. Et ça, c'est quelque chose de très important, de savoir que sans Luc, de nombreuses parties du ministère de Jésus nous seraient totalement inconnues. Ensuite, si on prend les 35 miracles qui sont détaillés dans l'ensemble des évangiles, il y en a 20 que l'on retrouve dans l'évangile de Luc, et sur ces 20, il y en a 7 que l'on ne retrouve que dans l'évangile de Luc. Il faut savoir aussi que sur les 51 passages qui sont classifiés comme des paraboles, eh bien, dans l'ensemble des évangiles, sur les 51 paraboles, on en retrouve 35 dans l'évangile de Luc, et là aussi, 19 sont spécifiques à l'évangile de Luc. C'est dire le sérieux de l'apport de l'évangile de Luc, la précision de son travail. Et Dieu a utilisé Luc pour nous transmettre des informations qui nous permettent d'avoir une image plus précise de Jésus. On est appelé en tant que chrétien à ressembler chaque jour davantage à Jésus-Christ. Comment ressembler à Jésus si on ne sait pas ce qu'il a fait, si on ne sait pas ce qu'il a dit? Et Luc nous permet cela. Luc nous permet, par son travail, de connaître davantage Jésus, de savoir davantage ce que Jésus a fait, et ainsi de pouvoir lui ressembler davantage. Bien entendu, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui transforme nos cœurs. Mais par la connaissance plus précise de la façon dont Jésus a vécu, nous avons un exemple frappant de la façon dont nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens. On n'a pas vraiment d'informations sur cet honorable Théophile. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'appeler honorable quelqu'un que vous croisez tous les jours, hein, quand on croise son patron, honorable patron. Je ne suis pas sûr qu'on utilise ce terme, mais en tout cas, c'est un beau terme. Mais on n'a pas vraiment d'informations, en tout cas, sur ce Théophile. On a des suppositions. C'était probablement donc un chrétien, puisqu'il reçoit un enseignement pour pouvoir certifier les enseignements qu'il a reçus. C'était un ami de l'auteur, peut-être d'origine païenne, peut-être plutôt aisé. Mais je pense qu'il faut voir ici davantage une dédicace de l'auteur qui permette d'adresser son évangile à une personne quand il l'écrit, mais finalement de viser un public plus large. Le but est clairement d'enraciner la véracité des enseignements qui ont été reçus. Et on peut se poser la question aujourd'hui. Est-ce que lorsqu'on reçoit un enseignement, que ce soit au culte, que ce soit par des podcasts, que ce soit par des articles de blog, est-ce que lorsqu'on reçoit un enseignement, on va puiser dans la parole de Dieu avec une recherche méticuleuse et approfondie? Est-ce qu'on va chercher de quoi enraciner cette vérité? C'est une première question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on cherche à enraciner la vérité que l'on reçoit? Tout enseignant commet parfois involontairement des erreurs, se laisse parfois aller dans une interprétation qui ne respecte pas parfaitement l'intention réelle de l'auteur. Mais l'exemple de Luc nous pousse au moyen des outils qui sont les nôtres. Alors, ça ne sera pas en allant chercher des témoins oculaires de la vie de Jésus, on en trouvera peu, je pense, mais en tout cas avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Luc nous pousse à aller chercher à puiser la vérité qui nous est présentée dans la parole de Dieu, à pouvoir défendre avec conviction, avec une assurance qui soit basée sur la parole de la vérité, de pouvoir défendre notre foi et ce en quoi nous croyons. Il y a certaines questions auxquelles on sait répondre parce qu'on nous les a toujours enseignées, mais est-ce qu'on sait où les trouver dans la parole de Dieu? Tu crois que Jésus est le Messie envoyé par Dieu? Tu crois qu'il était annoncé dès le commencement? Tu crois que son œuvre à la croix nous offre le pardon et qu'en lui nous avons la vie éternelle? Mais où est-ce que c'est écrit? Je vous rassure, c'est écrit dans la parole. C'est important de savoir où est-ce que c'est écrit. Je vous ai mis ici quelques références qui permettent de répondre à ces questions. Et c'est important que nous ayons des ancrages solides pour pouvoir attester de la véracité de l'enseignement que l'on a reçu. Pouvoir, tout comme Luc, enraciner nos connaissances, ça permet d'affermir notre foi et donc de pouvoir proclamer Dieu avec davantage de courage, davantage de témérité. Rappelons-nous que c'est Dieu qui renouvelle notre intelligence. C'est lui qui nous parle au travers de sa parole. Le mérite lui en revient. Mais on ne doit pas pour autant négliger notre part, à savoir nous plonger dans sa parole. Car comment savoir ce que Dieu a à nous dire si nous n'utilisons pas ce merveilleux outil qu'est la parole de Dieu, ce message qu'il a pris soin de préserver au fil des siècles? J'aime ce terme que Luc utilise de l'entière véracité. Il nous rappelle qu'il est absolument nécessaire d'avoir un texte qui est entièrement juste. On parlait un jour avec un ami de l'inhérence biblique. L'inhérence biblique, c'est un terme, en fait, qui dit que la Bible ne contient aucune erreur. In, c'est sans, et errance, c'est erreur, déviation, sans erreur. Et lui me disait soutenir le point de vue que la Bible pouvait contenir des erreurs, car c'est des hommes qui l'avaient écrite, et donc finalement que l'écrit était faillible. Alors il me disait, je te rassure, hein, je pense que sur les doctrines fondamentales, il n'y a pas d'erreur, mais je pense quand même qu'il y a des petites erreurs dans la parole de Dieu. Et je lui ai demandé simplement, lui soutenait ce qu'on appelle l'inhérence partielle, d'accord ? C'est partiellement juste. Et je lui ai demandé, mais comment tu fais du coup pour savoir ce qui est de la doctrine fondamentale et ce qui ne l'est pas ? Comment tu fais pour savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas ? Est-ce que c'est toi qui fais ce choix de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon ? C'est juste impossible de croire en la parole de Dieu si on pense qu'il peut y avoir des erreurs dedans. C'est impossible. Parce que vous ne pouvez pas, vous, décider de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Si Dieu s'est révélé par sa parole, c'est que sa parole est entièrement juste. Et du coup, il n'a pas su me répondre quand je lui ai demandé comment il faisait le tri entre tout ça. S'il ne croit pas à l'entière véracité de la Bible, c'est-à-dire le fait qu'elle soit pleinement et totalement inspirée par Dieu, et qu'elle est donc entièrement juste, alors on se retrouve à enlever des passages qui ne nous plaisent pas. On se dit, ça, je ne vais pas le mettre. Ça, je pense que c'est faux, donc hop, je l'enlève. Et finalement, on se retrouve à faire l'économie de cette réflexion qui nous pousse à nous demander pourquoi telle ou telle chose est écrite. N'ayons pas peur de nous plonger dans la parole de la vérité, en acceptant aussi que notre compréhension est limitée. C'est pas parce qu'en lisant la parole de Dieu, il y a des choses que l'on ne comprend pas, alors qu'on doit se dire que la parole est fausse. Si on ne comprend pas des choses dans la parole de Dieu, c'est que notre compréhension à nous est limitée. L'erreur ne vient pas du texte, elle vient de nous. Deuxièmement, on arrive à l'annonce d'une naissance, l'annonce de la naissance de Jean. Donc, on va aller des versets 5 à 15 pour cela. Il faut voir que Zacharie appartient à la classe sacerdotale d'Abia. Abia, ça signifie « mon père, c'est Yahvé ». C'est intéressant car quand on voit le dévouement de Zacharie, quand on voit le dévouement d'Élisabeth et quand finalement on voit aussi le dévouement de Jean le Baptiste, on voit bien qu'ils se reconnaissent enfants de Dieu. Ils se reconnaissent comme ayant Yahvé pour père. Et ça montre aussi qu'en plus d'être le fils de Zacharie, Jean serait un enfant de Dieu lui-même. Et puisque l'on est dans les prénoms, on a aussi Zacharie, qui signifie « Dieu se souvient », et Élisabeth, qui signifie « Dieu est mon serment ». Jean-Baptiste vient annoncer la venue du Messie, de Jésus-Christ. C'est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. C'est un point particulier sur lequel Luc aime insister, l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Dieu se souvient de ses promesses. Et la consécration de Jean-Baptiste dès le sein maternel affirme aussi avec conviction que Dieu est son serment. Peut-être que pour certains d'entre vous, les prénoms, ça signifie pas grand-chose, mais je trouve vraiment intéressant ce rappel qui nous est fait, que Dieu se souvient de ses promesses. Est-ce que nous, on est prêts à répondre à cela en disant « oui, Dieu est mon serment » ? Dieu se souvient de ses promesses. Est-ce que nous, on veut affirmer « Dieu est mon serment » ? Il nous est dit que Zacharie et Élisabeth étaient justes aux yeux de Dieu. Ils observaient toutes les lois du Seigneur. Ils étaient irréprochables, mais aussi qu'ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile. Là, j'aimerais faire deux remarques. Premièrement, on ne doit pas penser que le fait de chercher à être juste aux yeux de Dieu se fait pour recevoir telle ou telle bénédiction, pour que Dieu nous bénisse comme on le voudrait. Ça, c'est l'évangile de la prospérité qui allie la fidélité à Dieu et la bénédiction terrestre. Si je suis fidèle, alors Dieu va me bénir. Dieu nous bénit de multiples façons, notamment par le salut en Jésus-Christ. Mais il ne faut pas penser que par notre fidélité, on va avoir des bénédictions terrestres. Zacharie a continué avec fidélité son service au temple. Sa femme et lui ont continué à être fidèles. Et à leur âge, je ne suis pas persuadé qu'ils faisaient ça pour obtenir un enfant. Ils le faisaient simplement parce que c'est ce qu'il fallait faire. Ils savaient que c'est ce qui était juste aux yeux de Dieu. On vit dans une société qui part du principe qu'il faut toujours y avoir une rétribution. On fait rien pour rien. J'ai même des élèves parfois qui me disent « on vient en cours, on travaille à la maison, franchement, on devrait être payé ». C'est incroyable. Qui n'a jamais vécu ou entendu cette phrase quand on propose de faire une bonne action, la personne répond « oui, mais qu'est-ce que j'y gagne ?» Notre monde perd cette notion que l'on fait ce qui est juste parce que c'est juste. On fait ce qui est bien parce que c'est bien, on ne le fait pas pour recevoir quelque chose. Zacharie et Élisabeth ont gardé en tête que leur père, c'est Yahvé. Ils ne suivent pas les lois du Seigneur pour obtenir quelque chose. Ils le font parce que c'est ce qui est juste. Gardons la justice comme un objectif quotidien et ne cherchons pas à voir ce que l'on peut y gagner de terrestre. Soyons zélés pour ce qui est céleste. Le fait de ne pas avoir d'enfants était aussi une honte sociale. Leur contemporain peut-être portait sur eux un regard blessant, un regard mauvais, puisqu'ils pensaient peut-être qu'ils étaient maudits par Dieu. En effet, s'ils avaient fait correctement les choses pour Dieu, ils auraient sûrement dû avoir un enfant. Cela nous rappelle également aussi ce qu'a vécu Job, sur lequel on a porté un regard qui était faux. Mais peu importe le regard des autres, ce qui comptait avant tout, c'était le regard de Dieu. Ce n'est pas pour rien que ces deux personnes ont été choisies pour être les parents de Jean le Baptiste, et qu'aujourd'hui on se souvient encore d'eux, qu'aujourd'hui ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, a un écho à notre temps, maintenant, 2000 ans après. La deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que je trouve beau, magnifique, que Zacharie et Élisabeth restent un couple solide malgré leurs difficultés. Il est dit qu'Élisabeth était stérile. Alors, est-ce que c'était une façon de parler pour dire que les deux n'arrivaient pas à avoir d'enfants ? C'est bien possible. En France, il a fallu attendre la bande dessinée « Les Bidochons » pour qu'on commence enfin à parler de la stérilité ou de l'infertilité masculine. On a souvent fait retomber à tort la responsabilité de l'échec de la conception sur la femme. Toujours est-il qu'ils avaient une difficulté à concevoir. La preuve, c'est qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et Zacharie et Élisabeth sont restés un couple soudé. Et cela m'encourage à me dire que, quelles que soient les épreuves de la vie, nous pouvons, avec Sarah, mon épouse, les vivre ensemble, en n'attribuant pas à Dieu la responsabilité d'une difficulté. Nous sommes tous appelés à rester juste devant Dieu, même si les choses ne vont pas comme nous le voudrions. Et parfois, c'est difficile. C'est tellement plus simple de blâmer Dieu. Est-ce qu'on imagine le nombre de fausses accusations que Dieu a supportées au fil des siècles ? Nos difficultés ne sont pas une excuse pour nous comporter injustement, pour ne pas suivre les lois du Seigneur. Dieu ne fait rien au hasard. Et on le voit aussi dans le fait que Zacharie, qui a été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur pour offrir l'encens, Zacharie a été appelé à ce moment précis. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la notion de tirer au sort. En fait, c'était le Urim et le Thummim, mais on disait que c'était une façon que Dieu avait d'exprimer sa volonté en tirant au sort. Mais de ce que j'ai pu lire, il semblerait que les prêtres étaient tellement nombreux que certains prêtres n'auraient jamais, de toute leur vie, la possibilité de faire ce service, d'allumer le parfum pour le Seigneur. Et donc, il leur serait impossible de s'approcher du lieu très saint. Je vous ai mis un petit plan, je suis désolé de la qualité de l'image, j'espère qu'on voit. Je vous ai mis un petit plan, en fait, on voit qu'il y avait le parvis extérieur, d'accord ? Donc, il y avait même la cour des femmes là-bas. Là, il y avait le parvis extérieur avec l'autel des holocaustes et la cuve. Et en fait, quand Zacharie est rentré, c'est jusqu'ici qu'il est venu. On voit où est l'autel des parfums. En fait, il y a deux voiles dans le temple. Il y a le premier voile qui mène au lieu saint et il y a un deuxième voile qui mène au lieu très saint, là où il y a l'arche de l'Alliance, là où était la présence de Dieu. Et en fait, Zacharie a été tiré au sort pour s'approcher. Au niveau du lieu saint, il est le plus proche possible du lieu très saint. Il est le plus proche possible de la présence de Dieu. Et c'était sûrement la première et la dernière fois qu'il allait faire ce service et s'approcher si près de la présence de Dieu. Et en fait, ça s'est fait à ce moment précis. Et là, je suis ébahi par le timing de Dieu. La chronologie des événements est tout simplement parfaite. L'annonce de la naissance de Jean, puis l'annonce de la naissance de Jésus, leur venue au monde. Bref, tous les événements prennent leur place parfaitement. C'est un plan divin qui est parfaitement exécuté. Et ceci nous rappelle à quel point Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu n'est jamais ni en retard, ni en avance. Ce que Dieu fait, il le fait bien. Et j'aimerais que ce matin, on puisse être encouragés à nous en remettre à Dieu, car il est tellement digne de notre confiance. On peut s'en remettre pleinement à lui. Et même si on ne comprend pas toujours ce qu'il fait, si on ne comprend pas pourquoi il fait ce qu'il fait, si on ne comprend pas pourquoi certaines choses tardent à s'accomplir, rappelons-nous que Dieu se souvient et qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Le texte nous dit « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. » Bien que Zacharie et Élisabeth étaient avancés en âge, ils ont malgré tout continué à prier pour avoir un fils. Et ça se retrouve dans le nom de leur fils, Jean. Ça signifie « le Seigneur a fait grâce ». On voit ici la persévérance dans la prière de Zacharie et d'Élisabeth. Rien ne les empêchait de continuer à prier, même si le fait que Dieu réponde ou pas n'empêchait en rien ces deux personnes de suivre les lois du Seigneur. Leur prière n'a jamais été un chantage qui était fait à Dieu. « Si tu me donnes un enfant, alors je te servirai ». Non, non, c'est une prière faite tout en sachant que Dieu reste souverain sur les événements. Dieu reste souverain sur leur vie. N'hésitons pas à demander à Dieu, en acceptant que Dieu peut nous accorder ou non ce que nous demandons. Cette naissance va bien entendu être une source de grande joie pour les parents, mais aussi pour nous aujourd'hui. Nous qui voyons là les prémices de la venue du Messie sur terre, source de notre salut. Le Seigneur a fait grâce. Il a fait grâce à ses parents, mais il a aussi fait grâce à nous tous par la venue de Jésus-Christ. Et c'est Jean qui a annoncé sa venue. Et au-delà de la joie d'avoir un fils, je pense que la plus grande joie qu'a dû éprouver Zacharie, elle réside dans la phrase suivante. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Vous imaginez, Zacharie servait au temple. Pour lui, servir le Seigneur, c'était toute sa vie. Il était juste, irréprochable, il suivait les lois du Seigneur. Et là, il reçoit cette parole. Ton fils sera grand aux yeux du Seigneur. Quel réconfort admirable. J'imagine qu'en tant que parent, quand vous avez votre enfant qui est né, vous vous dites, j'espère qu'il marchera dans les voies du Seigneur. Et là, il a reçu cette promesse. Ton enfant sera grand aux yeux du Seigneur. Et pour Zacharie, ça représentait tellement de choses, cette grandeur aux yeux de Yahvé. Et pour nous aujourd'hui, on peut comprendre peut-être le double sens de cette phrase, puisqu'on sait, au travers des évangiles, l'importance qu'a eu Jean aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Jean a une grande importance. Et je pense que si Zacharie avait su que son enfant allait baptiser d'eau le Messie, il aurait été un peu plus émerveillé. Le fait de ne boire ni vin ni boisson alcoolisée montre que Jean a été appelé à vivre une vie de consécration, comme ont pu le faire Samson et Samuel. Vous vous rappelez, on a vu ça dans les études bibliques sur les juges avec le Naziréat. Et de plus, Jean serait rempli de l'Esprit-Saint. Il faut qu'on se rappelle le contexte. À ce moment-là, de l'histoire du peuple d'Israël, on sort de entre 400 et 450 ans de silence prophétique. Dieu n'a parlé par aucun de ses prophètes pendant entre 400 et 450 ans. Et là, on a une nouvelle ère qui est inaugurée par la naissance d'un enfant qui est rempli de l'Esprit-Saint. Il y a un événement avec un grand E qui est en train de se produire à ce moment précis. Un renouveau pour le peuple. Même si Zacharie a pris ce nom de Jean comme le fait que le Seigneur a fait grâce à son épouse et à lui-même, là, le Seigneur est en train d'annoncer quelque chose. Il est en train d'annoncer qu'il y a l'arrivée de l'annonciateur de la venue du Messie. C'est pour ça que j'ai choisi d'appeler ce message l'annonce d'un annonciateur. Jean, c'est l'annonciateur de la venue du Messie. Et c'est bien là ce que le ministère de Jean va signifier. Comme nous le rappelle Jean, chapitre 1, verset 23, il y a donc des sacrificateurs qui viennent le voir en disant « Mais toi, tu dis que tu es qui ?»« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Jean a annoncé la venue du Messie. On arrive à la troisième partie, l'annonce d'un ministère, versets 16 à 25. Comme je le disais tout à l'heure, on voit directement un lien qui est fait entre l'Ancien Testament, l'accomplissement d'une promesse, et une nouvelle ère dans l'histoire du peuple d'Israël. Je vous propose de prendre ensemble les deux derniers versets de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 3, versets 23 et 24. Alors, peut-être que certains ont dans Malachie 4, puisque le découpage de Malachie peut changer selon les versions. Mais en tout cas, c'est les deux derniers versets de l'Ancien Testament. Et chronologiquement, ce sont les deux derniers versets qui ont été donnés dans la parole de Dieu par rapport à l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 3, versets 23 et 24. « Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer par destruction. » C'est intéressant de se rappeler que le prophète Élie a vécu au 9e siècle avant Jésus-Christ. Malachie date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Malachie vient bien après Élie. Donc, Malachie n'est pas en train de parler d'Élie. Il est en train de parler d'un prophète qui aura le même esprit qu'Élie. Et cela nous montre l'importance de Jean. Tout comme Élie a été une référence parmi les prophètes, parce que c'est un grand prophète, on voit Jean qui est un prophète important, un grand prophète, il a le même esprit qu'Élie. Et Zacharie était un prêtre. Il avait tout ça en tête, ça résonnait dans sa tête. Après 4 siècles et demi de silence prophétique, on voit une passerelle, un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On assiste à la reprise de l'annonce de Dieu en ce qui concerne les événements à venir. Malachie nous permet de finir l'Ancien Testament afin de regarder vers le Nouveau et jette une passerelle vers le Nouveau Testament. Et c'est la naissance de Jean-Baptiste qui est cette passerelle et qui nous permet d'ouvrir cette nouvelle page du Nouveau Testament. On rappelle que dans notre texte, en Luc chapitre 1, verset 17, il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance qui résonnaient en Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Vous voyez le rappel avec Malachie ici ? C'est très intéressant en fait de voir ce lien qui est fait entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On marquera aussi qu'il dit « réconcilier les pères avec leurs enfants ». Moi, j'aurais plutôt eu tendance à dire d'habitude, quand c'est les enfants qui font une bêtise, on réconcilie les enfants avec leurs pères. Mais là, c'est réconcilier les pères avec leurs enfants. Comme si l'ancienne génération pouvait avoir un conflit avec la nouvelle. Mais la nouvelle génération, elle a des enfants. C'est la génération de Jean, c'est la génération de Jésus. C'est la génération de ceux qui apportent une solution. Et en fait, tout cela va être réconcilié pour pouvoir avoir un peuple qui est prêt pour le Seigneur. Puis là vient le doute de Zacharie. À quoi le reconnaîtrai-je, car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée ? Je vais être franc avec vous. J'ai toujours trouvé que c'était assez dur que Zacharie puisse être sanctionné pour son incompréhension. Il s'est retrouvé muet pour avoir émis un doute. Alors peut-être qu'il s'est retrouvé muet pendant toute la grossesse de sa femme pour pouvoir l'écouter davantage, pour pouvoir mieux l'accompagner. Ça, je ne sais pas. Et plus sérieusement, dans la situation, qui ne se serait pas posé de questions ? Et pourtant, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Quand Dieu affirme quelque chose, ce n'est pas comme si notre ami ou quelqu'un que l'on connaît nous affirme quelque chose. Quand Dieu nous affirme quelque chose, on sait que ça va arriver. Dieu nous demande d'accepter les choses avec foi. Lorsque Dieu fait une promesse, il n'est pas nécessaire de se demander « Mais comment est-ce que tu vas faire, Seigneur ? Franchement, c'est trop dur, c'est impossible. Il y aura des difficultés, puis je suis âgé, puis assis. » Non. Quand Dieu fait une promesse, on sait qu'elle va s'accomplir. L'âge ou quelque autre obstacle n'est pas un obstacle pour Dieu. Et l'ange Gabriel, à un moment, il a dit « Je suis Gabriel ». Pour Zacharie, c'était quelque chose qui devait le rassurer. « Je suis Gabriel ». L'ange Gabriel, c'est celui qui a parlé à Daniel, qui lui a donné ses révélations sur les temps à venir, sur la fin des temps. Et en fait, en se présentant comme l'ange Gabriel, il est en train de lui dire « Je suis celui qui est envoyé par Dieu. Je suis celui qui te donne, qui t'apporte la révélation de Dieu. » En fait, en disant « Je suis Gabriel », il est en train de dire « Fais-moi confiance, c'est bien Dieu qui te parle. » Il est intéressant que le terme aussi d'annoncer cette nouvelle, certains textes ont annoncé cette bonne nouvelle, c'est un terme qui signifie prêcher l'évangile, qui signifie prêcher la bonne nouvelle. Vous le voyez, hein, le mot il est écrit ici, ça a donné aussi évangélisation. Ce mot-là est utilisé pour annoncer une bonne nouvelle. La naissance de Jean, c'est le début de l'évangile, c'est le début de la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. C'est pour ça que Luc commence par là. En fait, il commence par la naissance de Jean pour pouvoir annoncer le Messie qui vient. Il nous est dit, lorsqu'il eut terminé son temps de service, là, pour Zacharie, il a dû finir son temps de service avant d'entrer chez lui. Vous vous rendez compte, vous recevez une nouvelle comme ça, vous ne voyez pas du tout votre femme, et on vous dit d'abord, tu dois finir son temps de service. Alors, quand on se réfère à 2 Chroniques 23, verset 8, on voit qu'en fait, le temps de service dure du jour du repos au jour du repos, c'est-à-dire de Shabbat à Shabbat. Le temps de service, c'est une semaine. Je ne sais pas à quel moment exact a eu lieu cette révélation pour Zacharie, mais il a dû attendre la fin de son service pour pouvoir aller annoncer à sa femme la révélation qu'il avait eue. Et pour l'annoncer, je ne sais pas comment elle allait faire parce qu'il était mieux. Bon, l'écriture existait, hein, je vous rassure. On s'envoie bien des textos, il va y avoir quelque chose. Et donc en fait, on voit quoi ici ? On voit qu'il devait avoir plein de choses qui cogitaient dans sa tête. Et malgré tout, il finit son service auprès du Seigneur. Et après, il pouvait enfin rentrer. Mais c'est vraiment, ça devait bouillonner dans son esprit. Puis vient le temps où Élisabeth tombe enceinte. Et là, elle se tient cachée pendant 5 mois. Elle ne révèle à personne pendant 5 mois qu'elle est enceinte. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Et en fait, quand on imagine la situation, on peut comprendre facilement pourquoi elle se tient cachée. Sa stérilité était vue comme une honte pour elle, par beaucoup de gens. Et si, avec son âge avancé, elle était venue et que son ventre n'était absolument pas rond, en disant « je suis enceinte », je pense que certaines personnes l'auraient regardée bizarrement. Donc elle s'est cachée, on ne peut pas lui reprocher ça. Mais elle a préféré attendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été une révélation pour sa parente Marie d'arriver et d'apprendre qu'Élisabeth était enceinte, parce que personne ne le savait. Mais je pense que c'est ni une honte ni un mensonge de ne pas révéler tout de suite une grâce que Dieu peut nous faire. Parfois, il convient d'attendre un peu avant de la révéler. Mais n'oublions pas quoi qu'il arrive, et ça c'est un point capital, n'oublions pas de rendre gloire à Dieu. C'est ce qu'Élisabeth a fait. Elle le dit, c'est l'œuvre du Seigneur en notre faveur. Elle a rendu gloire à Dieu pour ce qui lui est arrivé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on garde en tête, que l'on puisse continuer à rendre gloire à Dieu, qu'on puisse continuer à remercier le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ses grâces en notre faveur. Alors, je vous rassure, j'arrive à la fin de mon message, je vais conclure. Et j'aimerais qu'on récapitule trois choses ensemble, que l'on retienne trois choses avant de partir. Premièrement, rechercher. Que nous puissions toujours rechercher dans la parole de Dieu, de quoi enraciner notre foi. Que nous n'ayons pas peur de creuser. Plus nous creuserons, plus Dieu nous parlera. Et ça n'est pas réservé à une élite intellectuelle. Ça n'est pas réservé de comprendre la parole de Dieu uniquement à des personnes qui, elles, ont fait des études, qui, elles, sont intelligentes. C'est Dieu qui renouvelle notre intelligence. Tout le monde, d'un enfant à un adulte, tout le monde peut comprendre la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui se révèle. Et Dieu vous révèle quoi ? Ce que vous avez besoin d'entendre. La parole de Dieu nous permet de comprendre Dieu. Et tout le monde y a accès. Et que l'on puisse rechercher dans sa parole ce que Dieu a à nous dire. Que nous puissions aussi retenir que c'est le Seigneur qui fait grâce, que le Seigneur entend nos prières et qu'il y répond selon sa volonté et en son temps. Retenons que c'est le Seigneur qui fait grâce. Et enfin, pour finir, remercier. Remercier, que nous puissions toujours remercier le Seigneur, comme je le disais, comme Élisabeth l'a fait, pour son œuvre admirable de salut pour nous. On ne comprend pas toujours tout, mais n'oublions pas de remercier le Seigneur. Merci pour votre attention.